sur le territoire de Drancy, où nous serons encore demain. C'est l'opération, vous le savez, La Courneuve, Drancy de France Culture. Alors avec Mohamed Rouabi, je vois aussi le proviseur du lycée de Drancy, nous recevrons tout à l'heure deux universitaires nord-américains en visite dans les banlieues parisiennes, Timothy Smith et Steven Englund. Ça, c'est le rendez-vous à 18h30, mais d'abord Gilles Hervé, depuis la maison de Radio France, le journal de la rédaction de France Culture.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Jacques Chirac s'est saisi directement du dossier. Petite phrase du porte-parole de l'Élysée cet après-midi à propos du porte-avions Clémenceau. Le président a donc décidé de réagir après les derniers développements juridiques, les mises au point plus ou moins embrouillées et surtout les attaques désormais à caractère politique de ces dernières heures, le Parti Socialiste ayant notamment évoqué une affaire d'État. Nous revenons tout à l'heure sur cette affaire du Clémenceau avec les précisions de Tarach Legel et l'analyse de François-René Christiani. Dans ce journal également, nous ferons le point sur l'ouverture des débats au Parlement de Strasbourg, débat sur la directive Bolkestein, directive sur les services, débat au Parlement et manifestation des opposants à ces directives dans les rues de Strasbourg. Auparavant, ce nouvel avis de l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire, recommandant à propos de la grippe aviaire la claustration des volailles, et cela en raison d'un risque aggravé de contamination. On attend maintenant les décisions que devrait adopter le gouvernement pour se conformer à cet avis. Jean-Louis Borloo a officiellement et médiatiquement lancé ce matin le CESU, le chèque emploi service universel. Le CESU est mis en place pour favoriser l'emploi à domicile en simplifiant les démarches administratives et en allégeant les charges patronales. Jean-Louis Borloo espère ainsi créer quelques 500 000 emplois d'ici 2008. Les intermittents du spectacle ont manifesté cet après-midi à Paris et dans quelques villes de province, manifestation alors que s'ouvraient au siège du MEDEF de nouvelles négociations sur le régime d'indemnisation chômage. Les explications d'Omar Waman.
Après plusieurs épisodes mouvementés et de difficiles négociations à la fin de l'année 2005, le MEDEF et les syndicats se retrouvent de nouveau autour de la table pour tenter de mettre en place un système pérenne d'indemnisation et ainsi sortir du conflit qui dure depuis l'été 2003. Si Laurence Parisot, la présidente du mouvement des entreprises de France, s'est montrée optimiste et souhaite un accord rapide, de son côté, la CGT Spectacle craint que la réunion n'aboutisse à une prorogation du protocole 2003. À l'origine du conflit, le monde de la culture s'est en effet inquiété devant le tour pris par les négociations. Contrairement aux recommandations du ministre du Travail et de celui de la Culture, la version provisoire du nouveau protocole ne revient pas aux fameux 12 mois, la période de référence durant laquelle, jusqu'en 2003, l'intermittent devait travailler 507 heures par mois pour ouvrir des droits, mais maintient la réforme des annexes 8 et 10, soit 507 heures travaillées durant 10 mois pour les techniciens et 10 mois et demi pour les artistes. La durée d'indemnisation ne change pas non plus, 8 mois. Le texte prévoit néanmoins quelques aménagements, notamment la prise en compte des périodes de maternité, d'accident du travail ou de maladie, des avancées pas suffisantes pour le syndicat et la coordination des intermittents qui ont appelé à des manifestations et des arrêts de travail à Paris et en province.
La mobilisation des étudiants contre le CPE ne désarme pas. Plusieurs milliers de manifestants aujourd'hui, notamment à Rennes, Brest et Toulouse. À l'étranger, autour d'1 million de personnes, c'est le chiffre cité par les organisateurs de la manifestation qui s'est déroulée dans le centre de Beyrouth aujourd'hui. 1 million de manifestants pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, assassiné il y a exactement 1 an dans ces mêmes rues de Beyrouth. 1 million de manifestants pour tenter de maintenir l'élan, le sursaut politique qui avait suivi cet assassinat. À Beyrouth, le reportage d'Antoine Perruchot.
Malgré la bouderie des chiites du Hezbollah et des partisans du général Aoun, les Libanais ont renoué avec l'esprit qui les animait au printemps dernier. Ils étaient 1 million, affirme la police. Probablement un peu moins, mais peu importe. L'important, c'est que la place des martyrs ait à nouveau été couverte de drapeaux pendant que les haut-parleurs diffusaient sans relâche l'appel à l'unité lancé par Gibran Twini sur cette même place le 14 mars. À l'heure exacte où Rafik Hariri et 20 autres personnes furent tuées il y a 1 an, la foule observa 1 minute de silence. Puis, les dirigeants de l'actuelle majorité se succédèrent à la tribune pour réclamer, avec une virulence redoublée, le départ du président Laoud et la fin des manigances syriennes. Saad Hariri galvanise les manifestants en répondant présent ici aujourd'hui, leur dit-il, vous faites échec à la conspiration contre la liberté, l'indépendance et la dignité du Liban. Puis le druze Wali Zumblat en appelle au man de Rafik Hariri. C'est grâce à ton sacrifice, Rafik Hariri, qu'est né ce nouveau Liban que nous défendrons par notre âme et par notre sang. 15 heures, tout était fini, la place était livrée aux balayeurs et la pluie qui avait épargné ce rassemblement pouvait recommencer à tomber.
Un an après la mort de Rafik Hariri et après le départ des troupes syriennes, l'équilibre politique a-t-il vraiment bougé au Liban et dans quel sens? Ces questions, nous les poserons à notre invité à la fin de cette édition. Nous serons en ligne avec Nala Nahal, sociologue spécialiste du Liban. Au Pakistan, de nouvelles manifestations pour protester contre la publication des caricatures de Mahomet ont dégénéré à Lahore, dans l'est du pays, où des commerces occidentaux ont été saccagés, deux manifestants ont été tués, manifestations également à Erbil, dans le Kurdistan irakien. À Téhéran, l'ambassade d'Allemagne a été caillassée, celle de Grande-Bretagne attaquée à coups de cocktails Molotov. Enfin, le conseil provincial de Bassora, dans le sud de l'Irak, a réclamé le départ du contingent danois de la force multinationale, tant que le gouvernement de Copenhague n'aura pas présenter ses excuses. Saddam Hussein fait la grève de la faim. L'ancien président irakien a indiqué aujourd'hui à ses juges qu'il entendait protester contre les mauvais traitements dont lui et ses co-accusés seraient victimes. Le juge du tribunal a reporté les audiences au 28 février. En Tchétchénie, il faut veiller au respect des droits de l'homme. Petite mise au point de Dominique de Villepin au cours d'une conférence de presse aujourd'hui à Moscou. Le Premier ministre, qui effectue une visite officielle en Russie, a par ailleurs approuvé une déclaration commune avec Vladimir Poutine demandant à l'Iran de suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium. Omri Sharon, l'un des fils du leader israélien, condamné à 9 mois de prison ferme pour financement illégal du Likoud, le tribunal a différé l'exécution de la peine en raison de l'état de santé d'Ariel Sharon. Et puis dans ce journal, nous tenterons de voir où en est l'enseignement du français à l'étranger à travers le réseau culturel des alliances et des instituts, et cela après l'annonce très controversée de la fin des cours dispensés à l'Institut français de Vienne. Je vous le disais en ouverture de ce journal, c'est l'Élysée qui désormais joue le rôle de pilote pour tenter de sortir le Clémenceau des eaux troubles dans lesquelles il semble s'engluer chaque jour un peu plus. Une décision éminemment politique dans un dossier qui est devenu politique, nous le verrons tout à l'heure avec François-René Christiani, mais une décision due aussi à l'incroyable imbroglio juridique dont on a maintenant du mal à saisir les conséquences. Alors Tara Schlegel, où en est juridiquement le Clémenceau?
C'est un vrai feuilleton judiciaire qui a même des ramifications internationales, puisque la Cour suprême indienne et la Commission de Bruxelles se penchent sur le sujet. Mais restons d'abord en France, où la décision sans doute la plus attendue est celle du Conseil d'État. Elle doit tomber avant vendredi. Il y a beaucoup de chances pour que les magistrats demandent aux autorités d'arrêter le transfert du Clémenceau, autrement dit de stopper la course du navire qui est en route vers l'Inde. Le commissaire du gouvernement, qui est lui-même un conseiller d'État qui n'a rien à voir avec le gouvernement de Villepin, a préconisé cette solution hier et en général ses avis sont suivis. En demandant ainsi que le porte-avions soit immobilisé, le Conseil d'État permettrait au tribunal administratif de statuer enfin sur le fond du dossier. Car après avoir tenté des procédures pénales qui n'ont pas abouti car le TGI et la Cour d'appel se sont déclarés incompétents, les associations écologistes ont en effet saisi le tribunal administratif de Paris. Mais les délais sont très longs, 4 ans en moyenne d'instruction, confié tout à l'heure l'avocat de Ban Asbestos, l'une des associations. Cependant, vu le caractère exceptionnel du dossier, il se pourrait qu'un procès soit organisé dans les semaines à venir, estime du moins cet avocat. Voilà donc pour le fond. Parallèlement, les écologistes, qui cherchent toujours à savoir combien il y a d'amiante à bord du bâtiment militaire, ont poursuivi la société Technopure devant le tribunal d'instance de Versailles. Elles veulent en effet récupérer les documents de travail de Technopure qui a effectué un désamiantage partiel du Clémenceau à Toulon afin de faire expertiser ces documents. L'État, ayant pris connaissance de cette tentative, a essayé par 2 fois d'empêcher cette expertise indépendante. D'abord en référé, mais le tribunal de Versailles l'a débouté. Et puis la semaine prochaine, il va se tenir une nouvelle audience à Versailles, car l'État a intenté une tierce intervention pour toujours s'opposer à cette expertise qui montre quand même l'acharnement que mettent les pouvoirs publics à ne pas dévoiler la réalité de la situation. Enfin, si on regarde maintenant hors de France, en Inde, on sait que la Cour suprême s'est saisie du dossier. Plusieurs avis ont été rendus par un comité d'experts qui est divisé, mais un nouveau panel doit être nommé dans 3 jours, où des militaires vont faire leur apparition. Un calendrier, une mission précise leur seront délivrées vendredi. On a un peu l'impression que la justice indienne cherche maintenant à gagner du temps en voyant que les choses s'accélèrent en France. Enfin, la Commission européenne s'est invitée dans le jeu en demandant le 8 février dernier des explications au gouvernement français sur la légalité du transfert du Clémenceau. Certains éléments nous font penser qu'il y a quelque chose qui ressemble à une infraction, disait le commissaire à l'environnement la semaine dernière. Paris a 1 mois pour répondre à Bruxelles.
Bien, alors si toutes ces procédures arrivaient à terme et négativement pour le Clémenceau, que deviendrait le porte-avions.
Mais écoutez, le Clémenceau peut soit rester au large de l'Inde et faire des ronds dans l'eau en attendant le procès du tribunal administratif de Paris, soit la SDIC, la société de droit panaméen qui s'occupe en ce moment de la coque du porte-avions pour le compte de l'État qui en est toujours propriétaire, cette société peut aussi décider de le faire rentrer en France. Chez nous, il existe des chantiers navals qui ont déjà procédé au désamiantage de gros paquebots et autres bâtiments en fin de vie. Par contre, il n'y a pas d'endroit où démanteler totalement le navire, a priori dans l'Hexagone. Toutefois, une société spécialisée dans le désamiantage avait proposé à l'État de créer cette nouvelle filière. C'est d'ailleurs ce que souhaitent les associations écologistes, qu'on crée enfin une filière propre ici en France, ce qui bien sûr aurait un coût bien supérieur à l'idée d'envoyer le Clémenceau en Inde ou au Bangladesh.
Alors tout à l'heure, je parlais de dossier politique, François-René Christiani, j'aurais pu ajouter dossier diplomatique.
Depuis Marcel Pagnol, on savait que la marine française était un peu fanfaronne, on ne la croyait pas sournoise et aussi balourde avec un navire désarmé. L'ennui, c'est que l'amiante de son ex-porte-avions et son périple comico-tragique déteignent sur l'image de la France et que le chef de l'État et sa ministre de la Défense, annoncés en Inde dimanche prochain, vont se trouver lestés d'une coque Q790, appellation du navire depuis qu'il a été débaptisé, bien encombrante sur le plan diplomatique. Car loin des leçons qu'ils ont données à la terre entière en matière d'environnement, ils traîneront avec eux un mélange d'amateurisme, de secret défense et de bévue qui leur vaut sur le plan intérieur ce que la gauche considère déjà comme une affaire d'État. Fiasco total, mensonge, feuilleton grotesque, disent verts, communistes, socialistes, lesquels demandent l'audition rapide de Madame Alliot-Marty par l'Assemblée nationale et en appellent à Jacques Chirac pour ordonner le rapatriement à Toulon du bâtiment. Une éventualité que Dominique de Villepin, jugeant de Moscou la situation regrettable, n'a d'ailleurs pas écartée et que laisse présager le communiqué de l'Élysée.
À Strasbourg, après des semaines de discussions et de négociations, place au débat puis au vote sur la directive de libéralisation des services, directive commodément appelée Bolkestein. Les députés européens ont entamé leurs travaux en début d'après-midi, travaux suivis par Anja Vogel.
Cette nouvelle version de la directive service nous permet de préserver nos droits sociaux tout en assurant la protection de nos consommateurs et de notre environnement. À l'image de la socialiste allemande Evelyn Gebhardt, rapporteure du texte au Parlement européen, les responsables des deux principaux groupes politiques ont loué le compromis obtenu la semaine dernière entre démocrates chrétiens et socialistes et qui sera soumis au vote des eurodéputés. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a appelé les eurodéputés à leur responsabilité. Il est temps de montrer à nos citoyens que l'Union fonctionne.
Après une année 2005 difficile, nous sommes maintenant sur la voie du retour à la confiance dans l'Union européenne. Nous devons travailler à des solutions pragmatiques pour répondre aux problèmes réels de nos citoyens. Si la première lecture en séance plénière conduit jeudi prochain à un vote qui réconcilie les exigences de la compétitivité avec nos préoccupations sociales, ce serait, je dois vous dire, non seulement une victoire pour vous, mesdames, messieurs les députés, pour le Parlement européen, mais je crois pouvoir dire que ce sera une victoire pour l'Union tout entière.
600 000 nouveaux emplois seront créés avec cette directive, a souligné pour sa part la présidence autrichienne. Citoyens et entreprises ont le droit de profiter de ce marché intérieur. Ils ne souffriront pas du dumping social. Les 30 000 manifestants qui défilent pacifiquement cet après-midi autour du Parlement européen doivent constituer un stimulant important pour notre travail, a insisté pour sa part le président du Parlement européen, Josep Borrell. Ils ne veulent pas d'un nivellement des acquis sociaux par le bas, ont protesté de nombreux élus de gauche comme Francis Wurtz, président de la gauche unitaire européenne.
On aurait pu imaginer pour le jour de la Saint-Valentin sujet de débat plus romantique que la directive Bolkestein. La question qui se pose est de savoir si la directive ainsi modifiée est devenue une bonne directive, si sa substance essentielle a changé, si, comme certains l'affirment, les travailleurs peuvent désormais être rassurés quant à l'avenir de leurs droits sociaux. Notre réponse est malheureusement non.
Les citoyens veulent une Europe plus compétitive, moins protectionniste, ont répliqué les plus libéraux à droite. Quant aux Verts, ils dénoncent les imprécisions et l'insécurité juridique apportées par ce texte. C'est sur toutes ces voix critiques que reposera en grande partie l'issue du vote jeudi.
Effectivement, malgré les compromis, les amendements apportés au texte initial, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Strasbourg à l'appel de la Confédération européenne des syndicats. Le reportage d'Olivier Vogel.
Toute l'après-midi, Strasbourg a été traversée par une file ininterrompue hérissée d'étendards de toutes les couleurs. L'Europe des syndicats était dans la rue, histoire de rappeler aux eurodéputés que la directive Bolkestein, elle n'en veut pas.
Vous cette directive est vachement terrible. C'est incroyable terrible.
Je viens de Genève. On est venu par solidarité et pour lutter contre les mesures dans le monde du travail. Les salaires et autres pourraient être touchés.
J'aime bien parce que c'est très international. Il y a beaucoup de personnes d'autres pays, des syndicats que je ne connaissais pas. Je suis un peu dubitative en ce que font les eurodéputés pour nous, le peuple. Je me méfie beaucoup d'eux, c'est pour ça que je suis venue aussi. Bon, avec le bruit qu'on fait, ils devraient l'entendre. Mais je ne sais pas s'ils vont agir comme nous en avons besoin.
Justement, en tête de cortège, on rappelle que la mobilisation doit tenir. On n'en est après tout qu'à la première lecture du texte, mais d'ores et déjà, l'affluence, près de 40 000 manifestants, est une belle réussite. C'est l'avis de Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT.
Moi, je crois que le syndicalisme européen, avec toutes ses diversités, fait encore la démonstration qu'il est l'une des seules forces capables de mobiliser pour défendre une cause partagée par les salariés des différents pays.
Les 40 000 manifestants se sont dispersés dans le calme vers 17h, leur pancarte en bandoulière. Strasbourg, Olivier Vogel pour France Culture.
C'est une décision très mal comprise qui vient d'être annoncée en Autriche à l'Institut français de Vienne. L'annonce de la suppression des cours de français qui étaient jusqu'à maintenant dispensés par l'Institut. Décision très mal comprise par le personnel, mais aussi par les Autrichiens. Et une décision qui plus généralement inquiète les tenants de la francophonie, car le cas viennois n'est pas un cas isolé, Leïla Saïd.
Oui, en effet, c'est un moment plutôt mal choisi. La restructuration de l'Institut français de Vienne intervient alors que l'Autriche assure la présidence de l'Union européenne à la à l'organisation de la francophonie depuis mars dernier en qualité d'État observateur. Le 28 février prochain, le Centre culturel de Vienne ne dispensera plus de cours de français. Ils sont plus de 2000 étudiants viennois de tout âge à fréquenter régulièrement ce centre. La fin des cours suscite l'émotion dans la communauté des expatriés, mais également chez les Viennois. Les Viennois qui ressentent cette fermeture comme un abandon.
Cette fermeture des cours nous a beaucoup surprise. On a quand même l'impression que nous, on s'investit tellement que la France, par contre, ou la façon dont cela a été fait, était tellement brusque qu'on se sent un peu laissé tomber. On ferme pas l'Institut, mais on ferme les cours. Et puis l'Institut français sans cours, c'est inimaginable. En fait, c'est aussi un peu un acte symbolique. On a l'impression, n'est-ce pas, que la France se retire. Moi, j'aime beaucoup la langue française et je me fais des soucis parce que je pense quand on voit ça, il y aura de moins en moins de personnes qui parleront français. La France devrait plutôt affirmer sa présence. Mais que la France affaiblit de plus en plus ce réseau, ça m'inquiète, oui.
Alors donc inquiétude à Vienne, on l'a bien compris, on l'entend, et inquiétude plus générale car Vienne n'est pas un cas isolé.
Oui, toujours en Autriche, on notera la fermeture des centres de Salzbourg et de Graz, mais que ce soit à Vienne ou à Hanoï, la réorganisation des centres culturels inquiète. Les fermetures qui se font en rafale depuis une dizaine d'années, c'est surtout sur le vieux continent, l'Europe, qui dispose de 50% des centres que se remarque cette réorganisation. En 4 ans par exemple, l'Allemagne a vu se fermer une dizaine de centres culturels, la France dispose de quelques 150 centres dans 96 pays. Ces centres dépendent du ministère des Affaires étrangères. Or, les autorités françaises n'ont plus qu'un seul mot d'ordre, économie. Le Quai d'Orsay souhaite réduire les frais des centres les plus coûteux, jugés trop chers par le ministère des Affaires étrangères, sommé de faire le tri parmi les bâtiments d'État et surtout, réduire les 44 millions d'euros de subventions attribuées au réseau culturel, un réseau culturel pourtant lié étroitement à la diplomatie, mais qui fait les frais le premier des contraintes budgétaires. C'est le parent pauvre, selon Louis Duvernois, sénateur et auteur d'un rapport sur la situation des centres culturels français à l'étranger.
Cette dimension culturelle, si on l'a confiée au ministère des Affaires étrangères, c'est qu'elle est liée à l'action diplomatique. Elle est liée aussi au développement économique de notre pays. Et ça a toujours été, en dépit de la dotation qui représente près de la moitié du budget du ministère des Affaires étrangères, ça a toujours été un peu le parent pauvre, en termes d'intérêt, et non pas
de dotation. Mais justement, est-ce que c'est pas paradoxal, si elle est liée étroitement à la diplomatie, pourquoi on la soigne si peu?
Eh bien, c'est parce que c'est un problème d'organisation interne, c'est un problème de temps, c'est un problème d'agenda, c'est un problème où on considère, à tort, que tout ce qui est culture, bon, c'est important, mais enfin... quand on doit couper tranche. Oui, alors que c'est une erreur majeure.
18h19, nous revenons maintenant sur cette importante manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui à Beyrouth, manifestation organisée pour commémorer le premier anniversaire de l'assassinat de Rafik Hariri. Pour essayer de comprendre quel a été le cheminement, notamment politique, de la société libanaise un an après, quelle est la nature aujourd'hui des liens avec la Syrie, nous serons en ligne avec la sociologue Nala Shahal. Mais auparavant, Nabila Hamel, peut-être convient-il de resituer cette manifestation d'aujourd'hui et notamment par rapport au mouvement de masse qui avait immédiatement suivi la mort de Rafik Hariri.
Oui, alors disons qu'il n'y a plus l'effet de choc qui, après l'attentat contre Rafik Hariri, a galvanisé la majorité des Libanais jusqu'au départ des troupes syriennes. Mais la mobilisation d'aujourd'hui a tout de même rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes, certains disent 1 million. La taille de cette manifestation signifie-t-elle pour autant que les Libanais sont tous unis autour du même objectif maintenant? Et quel est-il aujourd'hui? Le fils Hariri et le leader druze Walid Jumblat ont rivalisé de virulence pour relancer le débat sur le départ du président Émile Lahoud. Il faut absolument, disent-ils, que ce legs de la tutelle syrienne s'en aille et le peuple libanais ne doit accepter aucun compromis là-dessus. Walid Jumblat qualifie Lahoud d'agent du terroriste Bachar al-Assad. L'hostilité envers la Syrie et le président Lahoud reste justement la pomme de discorde entre la majorité parlementaire, le front anti-syrien du 14 mars 2005, et les partis chiites, Amal et le Hezbollah. Tous deux sont présents dans le gouvernement de coalition de Fouad Siniora, mais leurs objectifs ne convergent pas. S'ils sont pour la recherche de la vérité sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre, les deux mouvements chiites n'avalisent pas la thèse de l'implication du régime syrien et se disent absolument contre une commission d'enquête internationale. Et dans son approche, le Hezbollah considère comme un impératif de normalisation les relations avec Damas. Ces divergences au niveau des priorités politiques ont valu d'ailleurs au Hezbollah une des plus violentes attaques de Walid Jumblat aujourd'hui. Le chef druze, faisant allusion aux alliances du Hezbollah avec la Syrie et l'Iran, affirmait qu'il n'était pas possible de laisser le sud du Liban pris en otage et instrumentalisé par des parties étrangères. Les deux groupes chiites n'ont d'ailleurs pas manifesté aujourd'hui, mais le parti Amal a prévu toutefois une commémoration plus tard dans le sud. Le chrétien Michel Aoun n'a pas non plus manifesté. Et dans le jeu politique assez complexe libanais, cet ancien ennemi juré des Syriens a récemment conclu une entente avec le Hezbollah.
Nala Shahal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc actuellement au Liban, vous êtes sociologue, spécialiste du Moyen-Orient et notamment du Liban. Alors la question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Est-ce que la société libanaise a changé, autant changé qu'on semble le croire de l'extérieur en un an?
Écoutez, la société libanaise se recompose selon des bases qui sont bien définies. Je ne pense pas que la société libanaise est en train de subir dans ses orientations des chamboulements qui ne sont pas attendus. Il y a une redéfinition des positions des uns et des autres. Il y a une nouvelle donne qui est entrée en jeu, celle du départ des Syriens. Et je pense que en plus de cela, il y a plein d'autres éléments qui concernent la région dans son ensemble depuis l'Afghanistan, l'Iran surtout et l'ensemble de la région, qui font que chacun se repositionne selon ses intérêts et sa vision des choses.
Alors, on se repositionne, vous l'avez dit, dans la société libanaise, il y a évidemment plusieurs éléments qui jouent. Il y a les alliances politiques, comme on l'a décrit tout à l'heure. Il y a également les facteurs confessionnels. Il y a ce qu'on peut appeler le contrat social. Qu'est-ce qui est primordial aujourd'hui?
Non, j'ai envie de dire que la représentation politique au Liban s'appuie sur une construction confessionnelle. Ce n'est pas une dimension religieuse, c'est une dimension qu'on appellerait de confessionnalisme politique. C'est-à-dire, il ne faut pas comprendre les enjeux des uns et des autres comme étant des enjeux motivés par le religieux. C'est des structures sociales. En fait, les confessions au Liban sont des structures sociales qui s'expriment politiquement en partant de ce qu'ils considèrent chacun comme étant ses intérêts et sa vision des choses. Je pense que il serait assez finalement réducteur de parler d'abord de la société libanaise. La société libanaise n'est pas unifiée sur un programme et la société libanaise connaît une crise sans précédent, je crois, parce que durant ce chamboulement, durant ce changement, elle n'a pas pu, ou ses représentants n'ont pas pu jusqu'à maintenant, conclure un pacte national. Le Liban a toujours vécu sur des compromis consensuels conduits d'une époque à une autre. Je pense que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu atteindre ce compromis consensuel qui est indispensable pour la cohésion ou un minimum de cohésion dans le pays.
Et un compromis qu'on espérait, qui semblait à portée de main il y a un an.
Écoutez, il y a un an, il y a eu l'assassinat du président Hariri et il y a eu un élan que j'appellerais un élan affectif. Mais les divergences avec Hariri étaient déjà là avant son assassinat et je pense que le fait, vous savez, ce n'est pas un argument théorique. La mort, l'assassinat ne sont pas un argument théorique. Il faut le dire, ça peut faire changer la façon d'exprimer les divergences politiques et les enjeux politiques, mais ça ne change pas le fond de la question.
Alors, les Syriens, autre donnée extrêmement importante, les Syriens sont partis. Est-ce qu'ils sont partis complètement?
Il n'y a personne qui part complètement du Liban. C'est-à-dire, plus elle, la Syrie, qui est notre grand voisin. Mais je pense qu'il y a une certaine présence de services de renseignement de tout le monde au Liban. Évidemment des acteurs régionaux, mais aussi de tout le monde. Et quand je dis ça, je suis en train de mesurer mes mots. Je pense qu'il n'y a pas de départ définitif. Évidemment, officiellement, les Syriens ne sont plus là. Évidemment, en tant que force qui peut intervenir, les Syriens ne sont pas là. Maintenant, ils ont des liens, ils ont des relations, ils ont des agents, ils ont des services. C'est l'évidence même. Imaginez que le Liban, qui finalement est un tout petit pays entouré de partout, sauf de la mer et du sud où il y a Israël, par la Syrie, peut ne pas avoir sur son territoire une certaine présence syrienne où une certaine influence syrienne serait totalement illusoire.
Alors un mot justement sur la Syrie. On a l'impression aujourd'hui que la Syrie est un pays absolument isolé sur le plan international. C'est votre avis?
Non, je pense que la Syrie s'est elle aussi accommodée. Elle a pu trouver son point d'équilibre après le coup qui l'a déstabilisé à un certain moment, celui du départ du Liban. Que, entre parenthèses, je dirais qu'ils auraient dû faire sans être obligés de le faire et depuis longtemps. Et la Syrie retrouve son point d'équilibre régional. Et je pense qu'une alliance entre la Syrie et l'Iran n'est pas du tout méprisable ou négligeable. Et je pense qu'il y a un troisième facteur qui entre en jeu, qui est celui de la situation en Irak, qui est encore porteuse de beaucoup de nouveautés. Il y a un quatrième élément qui est celui de l'arrivée du Hamas, qui est l'allié de la Syrie aussi, je ne dirais pas au pouvoir, parce que ce n'est pas un pouvoir en Palestine, mais quand même. Et je pense que la Syrie, même si elle est isolée par les pays occidentaux, a énormément de portes de sortie et énormément de possibilités elle est dans une position beaucoup moins difficile qu'il y a un an.
Alors un dernier mot rapidement, si vous le permettez. De quelle façon, à votre avis, l'assassinat de Rafik Hariri et puis le départ des troupes syriennes, de quelle façon ces événements ont réintroduit la France au Liban et au Proche-Orient?
Écoutez, je pense que la France serait, mon avis personnel, ce serait totalement passé d'une position aussi véhémente qu'elle a prise, c'est-à-dire l'appui inconditionnel au 1559 n'a pas été salué par tous les Libanais. Si vous parlez de la société libanaise, il y a une grande partie de la société libanaise qui n'a pas accueilli avec joie cette position.
Et la résolution demandant le départ des troupes syriennes. Oui.
Pas que, parce que c'était une résolution qui était un ensemble, qui parlait de la résistance comme étant, enfin, il y avait plusieurs points dans cette résolution.
Le désarmement du Hezbollah, notamment.
Qui était considéré comme étant un retour de l'influence américaine sur le Liban. Et je pense que la France a vraiment construit une grande sympathie dans la région par ses positions concernant la Palestine, les droits des Palestiniens et l'Irak, et contre la guerre en Irak. Et je pense qu'elle a perdu de son capital de sympathie dans la région en prenant une position qui n'était pas totalement en accord avec ce qu'on appelle ici son histoire. Et tout le monde au Liban, beaucoup de groupes sont en train de parler d'une orientation atlantiste de plus en plus accentuée de la France. Je pense qu'il faudrait quand même que la France considère sa distance avec les États-Unis pour pouvoir continuer à être crédible dans la région.
Merci beaucoup, Nala Achal, d'avoir été en ligne en direct de Tripoli. Au Liban, en direct dans ce journal. Hubert Vieille reviendra d'ailleurs sur la manifestation, sur cette manifestation de Beyrouth dans son journal de 22h avec le rédacteur en chef du journal libanais, Lorient Le Jour. La météo, pluie et vent demain, c'est le programme sur à peu près tout le pays. Et puis avant de vous rendre l'antenne, de vous passer l'antenne à Drancy, Jean Lebrun, cette information que je viens d'apprendre, la mort de Dary Cool, le comédien Dary Cool qui est décédé à l'âge de 80 ans. Voilà, Jean Lebrun, vous avez sans doute aussi noté dans ce journal l'ouverture Dary Cool, oui. L'ouverture du débat au Parlement de Strasbourg sur la directive Bolkestein. Et je crois que c'est vous qui ferez la fermeture et peut-être la conclusion de ce débat jeudi prochain.
Mais oui, nous serons jeudi à la Brasserie Michel, avenue de la Marseillaise. Et nous aurons notamment la rapporteure social-démocrate allemande, Madame Gerhardt, de la directive Bolkestein, qui sera donc mise aux voix des eurodéputés jeudi. Ainsi changent les décors. Vous parliez de la pluie, du vent. Il se trouve que deux auditrices, c'est vraiment des fidèles, étaient là vendredi, 1m30 de neige au refuge du Berbois à La Pesse. Vous étiez venu en ski, moi à raquette. On me reproche toujours de ne pas décrire les endroits où nous sommes. Alors vous qui nous suivez à la trace, c'est le cas de le dire, vous pouvez décrire le Drancy Club.
Bah, c'est un lieu très chaleureux. À part l'éclairage qui est un peu surprenant, bon, c'est une vaste pièce un peu enfumée. Je vois qu'il y a une estrade où il y a des instruments de musique. Ça doit vraiment être un lieu agréable.
Oui, c'est Caton et Catex d'ailleurs qui s'y préparent, qui sont venus du sud-ouest. Mais il faut d'abord que je présente les gens du lieu. Je ne vais pas redire nos remerciements à nos hôtes. Podelica, les patrons du Drancy Club, avenue Marceau. Je vais peut-être commencer par présenter Mohamed Rouabi, qui est un habitant du lieu et qu'on connaît bien à France Culture, homme de théâtre. Bonsoir.
Bonsoir.
Il y a une phrase de vous que j'aime bien. Enfin, j'aime pas toutes vos phrases, après je vous dirai. Un étranger, c'est un ami que tu ne connais pas encore, Mohamed Rouabi.
Oui. Et il faut que je dise quoi, que je commente?
Non, mais c'est une excellente introduction, puisque les deux héros du jour vont être deux Nord-Américains. Madame est fort inquiète à l'idée qu'il y ait des Nord-Américains et m'a demandé...
Non, pas du tout, pas du tout.
Si, vous m'avez demandé quand même s'il n'était pas d'un état particulier des États-Unis.
Non, c'était une blague. J'ai demandé s'il venait pas du Texas, mais ce qu'il y a un Texan en particulier que j'aime pas, c'est George Bush. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui seront d'accord avec moi, quoi.
Alors, Steven Englund, bonsoir. Bonsoir, rassurez-nous, vous êtes écrivain, on connaît votre livre chez De Fallois, c'est le dernier en français consacré à Napoléon, vous n'êtes pas du Texas.
Non, je suis de Montmartre, je suis républicain de Montmartre, monsieur.
Oui, d'accord. Vous
je
habitez,
suis communard.
Vous habitez souvent Montmartre, mais alors voici que Sophia Awin, qui nous a aidé avec Jamy Albessar à préparer cette émission, m'a prévenu, il a un côté Amélie Poulain.
Non, il habite à Montmartre et c'est un Américain francophile, c'est ce que je vous ai dit.
Non, vous avez ajouté, il a une vision du peuple et des faubourgs qui date de Fréhel.
Bah, je n'ai pas dit ça.
De Piaf.
Mais,
oui,
mais elle aurait pu le dire. Elle
vous
aurait
pu le dire. Hein. Oui, oui, oui. Bon, enfin, vous
elle
avez...
aurait eu raison.
Vous avez tenu à battre le pavé de Drancy en compagnie de Timothy Smith. Bonsoir. Alors, rassurez-nous, vous n'êtes pas états-unien, comme il faut dire en France.
Non, je suis canadien. Hein.
Bah, et vous parlez parfaitement français, parce que les Français ont été très froissés ce matin. Ils ont appris que le nouveau secrétaire d'État du nouveau gouvernement conservateur du Canada, chargé de la francophonie...
Bon, j'ai pas entendu les nouvelles. Alors
il parlait pas français.
Ça ne m'étonne pas.
Oui, voyez, parce que nous avons quand même notre côté coq gaulois, que vous avez d'ailleurs déplumé dans un livre qui paraît aux éditions Autrement, La France injuste. Quelle impression avez-vous eue, Stephen Englund, puisque vous avez tenu à arpenter Drancy avant nous-mêmes, de cette ville? Hier, on parlait d'une forte polarisation, les zones.